ben oui, je t'ai même pas ouvert le teint.
Ça va bien, merci.
Beau soleil, hein, ça fait du bien. On se le disait pendant la pause.
Ben,
hein.
Oui. C'est, ça joue sur notre morale, notre énergie, ça fait vraiment du bien.
C'est fou, hein?
Ouais.
Parce qu'on dirait quasiment, là, on boquait quasiment à ça plus jeune. Hein. Tu fais comme, ben non, voyons.
Ouais, c'est
ça
vrai. Va,
voyons la météo, voyons. Deux journées grises, que ça joue sur le moral, ma gang de vieux. Tu sais, puis là, plus tu vieillis, plus tu sais comment c'est vrai que ça
on
joue sur le moral.
On en prend conscience en vieillissant, j'ai l'impression.
C'est vrai. Jacinthe-Ève, ça brasse énormément encore entre le gouvernement et nos médecins. Hier, le ministre Christian Dubé a effleuré l'idée d'utiliser le baillon pour faire passer le changement sur la rémunération de nos médecins et les performances de nos médecins. C'est toujours délicat hein, d'effleurer ou de dire le mot baillon.
Le mot en B.
Le mot en B.
Bien, les journalistes qui posent la question le coincent en quelque sorte parce que s'il dit non, non, j'irai pas utiliser le baillon, il s'enlève lui-même une marge de négociation.
Ferme la porte,
il ferme la porte. Il n'a pas le choix de garder cette porte ouverte-là pour garder son rapport de force face aux médecins qui sont quand même en train de revendiquer le retrait de cette mesure-là ou de ce projet de loi-là. Donc, il se garde toutes les munitions en disant ça se peut qu'on aille avec un baillon. En même temps, la session parlementaire actuelle se termine le 6 juin. Est-ce qu'il n'a pas déterminé, il n'a pas dit s'il utiliserait le baillon à cette session-ci ou à l'automne prochain? Donc, on pourrait terminer la session parlementaire actuellement sans avoir terminé l'étude du projet de loi détaillé et se retrouver à l'automne avec une étude. Donc, moi, je pense que ce serait raisonnable qu'on poursuive l'étude à l'automne puis qu'il laisse planer la menace du baillon, mais c'est sûr que s'ils utilisent le baillon là, à cette session parlementaire-là, ça va brasser.
Ouais. Hey, Jacinthe-Ève, juste vulgarise-nous donc le résumé. Non, résume-nous doit. Tabarouette. Résume-nous donc.
Je l'ai lu.
Pourquoi c'est tellement mal vu? Le baillon?
Bien, c'est qu'on ne permet pas aux partis d'opposition d'effectuer leur travail de façon aussi efficace. C'est-à-dire qu'on étudie le projet de loi. Normalement, on étudie le projet de loi article par article et on permet aux partis d'opposition d'étudier les articles aussi, de poser leurs questions, de proposer des amendements aux articles. Donc, c'est ce qui permet aux partis d'opposition de faire valoir à la aux partis concernés, dans le cas-ci, ça peut être les médecins spécialistes ou les médecins omnipraticiens, qui pourraient dire dans tel article dans votre loi, il y a telle mesure, vous n'avez pas pensé aux conséquences que ça aurait sur sur X groupe d'intérêt, sur les clients, sur les citoyens, les patients, voyons pas les clients, mais les patients, les citoyens, ou par exemple sur nous dans l'organisation de notre travail. Donc à ce moment-là, ça permet à tout le monde de faire leurs revendications, leurs représentations et permettre des aménagements, des amendements. Lorsqu'il y a baillon, ben là, on saute par-dessus ces étapes-là. On ne permet pas d'étudier article par article le projet de loi et on l'adopte automatiquement. Donc,
on l'impose.
On l'impose, absolument. Et il n'y a qu'un gouvernement majoritaire là, qui peut imposer ça. Et bien sûr, ben, ça devient frustrant pour les partis d'opposition qui se disent ben, vous ne nous permettez pas de faire notre travail correctement.
Pour la CAQ, présentement, on le sait, ça va vraiment, mais vraiment pas bien dans les sondages puis dans bien des dossiers. La santé, c'est tout un domaine qui est touché, mais on dirait que la population en général... Quand tu regardes notre vision des médecins, j'ai comme la vision que ça peut être payant politiquement pour un parti politique comme la CAQ de s'attaquer aux médecins puis de dire, ben là, voyons, il faut que vous soyez plus performants si vous voulez être payé. Puis est-ce que pour la CAQ, c'est comme un genre de dernier espoir de dire, OK, c'est comme ça qu'on va aller chercher la population en s'attaquant aux médecins?
C'est probablement, effectivement, c'est probablement une manière pour la Coalition Avenir Québec d'aller chercher des points dans la faveur populaire parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a un problème avec notre réseau de la santé. La Coalition Avenir Québec, qui milite depuis des années, là, c'est pas récent, là, qu'elle veut changer le mode de rémunération des médecins. On parlait de mode de rémunération à capitation plutôt qu'à l'acte dans les années 2016-2017, avant qu'elle se soit portée au pouvoir, la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est une forme de respect de ses engagements, de s'attaquer à quelque chose auquel aucun gouvernement n'avait jamais osé s'attaquer. Donc, ça peut être une carte favorable. En même temps, si on adopte ce projet de loi-là maintenant, à cette session parlementaire-ci, ben, d'ici les prochaines élections en 2026, si ont lieu en 2026, à l'automne 2026, on pourrait être en mesure de voir si ça a porté fruit ou pas. Et là, ben, c'est un couteau à double tranchant parce que la Coalition Avenir Québec, en mettant le baillon maintenant, on pourrait s'attendre à ce que les électeurs disent, bon, ben, dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, on verra peut-être pas les résultats positifs de ça. Et s'il n'y en a pas, ben là, ça sera le dernier clou dans le cercueil de la CAQ parce que sa carte à jouer pour améliorer le système de santé n'aura pas fonctionné. Donc, peut-être que la CAQ a tout intérêt aussi à faire à étirer ça pour qu'on ne puisse pas nécessairement mesurer les impacts de ça si on pense que les impacts ne seront pas si grands que ça. Et moi, je pense que les impacts ne seront pas si grands que ça. Quand on manque de médecins de famille, il faut en former plus.
Ouais.
On peut bien aller chercher, là, gratter des minutes à gauche, à droite avec un paquet de médecins en essayant de resserrer les critères de performance. Mais on sait très bien qu'ils travaillent très fort, les médecins, et qu'ils sont pris aussi dans un système dysfonctionnel. Alors, il y a des grosses chances que si on veut vraiment améliorer l'accessibilité des citoyens aux médecins, il faut juste augmenter dans les facultés de médecine, augmenter les admissions. Puis oui. Ça, ben, il n'y a personne qui en parle. Hein? Il n'y a personne qui parle de ça, d'augmenter.
Commençons par la base,
ben oui,
peut-être.
Exactement.
Ben, j'allais dire, c'est un jeu dangereux, peut-être pour la CAQ aussi, ou peut-être probablement de s'attaquer à ce qui est la pointe de l'iceberg de notre système de santé, les médecins qui sont là. T'sais, c'est sûr, puis comme Max a dit, parfois on a cette vision-là des médecins. Ah, ils sont jamais contents avec leurs conditions. C'est une gang de chialeux, mais veut pas, dans notre système, c'est eux qui sont sur la ligne d'attaque. Là.
Oui, puis je pense que ça fait tellement longtemps que notre système va mal puis qu'il se détériore, qu'on en a parlé tellement amplement qu'on n'est plus à l'époque d'il y a 10, 15 ou 20 ans où on pensait que les médecins étaient gros durs. On le comprend, là. On en a abondamment parlé. On l'a expérimenté aussi, la population vieillissante. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de populations, de gens ordinaires qui ont baigné dans le système de santé, qui ont connu le système de santé pour avoir été patients proches aidants. Et ça fait en sorte qu'on le voit bien que le système est complètement dysfonctionnel et que c'est pas juste une question de performance individuelle des médecins.
C'est quand même un peu drôle. Je veux juste rajouter que, tu sais, jeune, quand un enfant vient te voir et dit, tu sais, puis cet enfant-là performe bien à l'école, puis rêve de devenir médecin, c'est noble, puis c'est wow, tu vas sauver des vies, ça va être incroyable. Et là, cette personne-là devient médecin et un peu plus tard, c'est mot t'as dit que t'es chialeux puis tu veux juste des meilleures conditions. C'est un peu ironique, là.
Oui, oui, absolument. Mais il y a eu longtemps là, cette admiration de leurs conditions de travail, mais je pense que on est de plus en plus réaliste face à leurs conditions de travail. On est en mesure de voir qu'effectivement, on est dans une société très, très, très bureaucratique et qu'on impose tellement un carcan technocratique autour d'eux. Et quand on fréquente un peu les hôpitaux, les CHSLD, on est en mesure facilement de constater que c'est la tour de Babel. Là. C'est les 12 travaux d'Astérix où est-ce que le formulaire doit être transporté dans nos mains, doit être envoyé par la poste. Les fax, je sais pas quoi.
Tu as mentionné dans une de tes réponses un élément que je ne voulais pas laisser passer sous silence. Tu as dit, on est trop loin des élections de l'automne 2026. Si les élections sont à l'automne 2026, développe, Jacinthe.
Ben, je le sais pas. Hein? Est-ce que le gouvernement actuel pourrait devancer les élections?
Ça serait-tu payant?
Je ne sais pas.
Parce qu'en ce moment, la CAQ, c'est comme 6, 7, 8 députés dans les projections.
Dans les sondages, oui, effectivement. Effectivement qu'en ce moment, les chiffres sont catastrophiques pour la Coalition Avenir Québec. Mais est-ce qu'ils pourraient préparer un grand coup pour l'automne, un grand coup de spectaculaire annonce qui permettrait de les faire remonter dans les sondages? Puis l'autre chose que moi, quand je regarde les sondages actuels, j'ai de la misère à croire que si demain matin, on avait une élection, ça serait concrètement ce qu'il y a dans les sondages.
T'sais, c'est toujours de même.
Oui, c'est ça, mais en ce moment, les gens sont très réactionnaires face au gouvernement, puis ils se disent « Non, je voterai autre chose. »
On est fâchés.
Oui, c'est ça, mais dans une vraie campagne électorale, où est-ce que là, la CAQ attaquerait le PQ, là, il y a toutes sortes d'histoires qui sortiraient. On le voit dans l'élection partielle dans Arthabasca. Et quand les gens affinent, quand les partis affinent leur couteau, à un moment donné, les directions peuvent prendre, les sondages peuvent prendre d'autres directions. Alors, je me dis que les sondages actuels sont dans un mouvement réactionnaire de la population qui en a ras-le-bol du gouvernement. Mais le gouvernement, s'il se lance en élection avant l'automne 2026, moi, je pense que c'est pas à exclure, mais il le ferait dans une construction d'une campagne de communication assez puissante. Là. Vous savez que la CAQ est forte en communication. Donc, il pourrait nous préparer 3-4 coups là, pour épater la galerie.
Fait que si quand on parle de coups, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui arriverait de l'externe venir remplacer François Legault?
Peut-être.
Genre?
Peut-être.
Genre qui?
Mais là, je vous parle pas comme si j'ai...
Des hypothèses?
Le soir...
As-tu des hypothèses?
Théorie?
Non, j'ai pas d'hypothèse ni de théorie, mais je... on...
Dans la logique de ce que la CAQ a déjà fait, c'est quelque chose que tu verrais arriver.
Oui, absolument. Puis les cartes se dessinent pour être compliquées pour François Legault de poursuivre sa carrière avec la coalition Avenir Québec dans une coalition Avenir Québec gagnante. Donc, c'est pas à exclure cette idée que peut-être qu'on pourrait avoir un nouveau chef se pointer, mais par surprise, c'est sûr qu'on va tout préparer ça par surprise, là, et ce sera bien, bien ficelé, bien orchestré, parce que c'est leur spécialité à la coalition Avenir Québec. S'ils ont de la difficulté avec le budget, difficulté avec le déficit, la dette, le déficit, le déficit structurel, mais les communications, ça, par exemple, ils sont très forts.
Hey, mini question sur la course à la chefferie, parlant de parti qui cherche un nouveau chef, là, justement, le Parti libéral du Québec. C'est-tu normal? Tu connais ça plus que moi, tu suis ça depuis plus longtemps que moi. C'est-tu normal que cette course-là à la chefferie soit aussi...
plate?
Ben, j'allais dire moche. Je vais dire moche. Puis peut-être que oui, peut-être que tu vas me dire, Red, c'est juste normal, c'est une course à la chefferie. C'est-tu normal? Ou?
Ben, on a vu des courses à la chefferie plus spectaculaires, plus colorées, plus pleines de rebondissements ou d'attaques entre les différents candidats. C'est vrai que cette campagne-là, elle est tranquille, mais elle révèle peut-être déjà une culture au sein du Parti libéral où on a cette culture des alliances, déjà une culture de préparer son prochain statut, sa prochaine nomination, son prochain move. On est quand même dans un calcul stratégique quand on est dans une course à la chefferie et peut-être que ça joue moins sale au Parti libéral que ça joue dans d'autres partis politiques.
C'est juste drôle. Je dis moche, tu dis tranquille. T'es pas mal plus pro que moi, mais
j'en s'intéresse. Moi, je dis plate. Est-ce que... Moi, pourquoi je trouve ça plate? Parce que depuis des mois, on dirait qu'on le sait que c'est Pablo Rodriguez qui va gagner. Là, puis je sais que t'es pas nécessairement fan des médias qu'on dit d'avance qui va gagner, mais là, ça semble tellement évident. T'sais, je comprends que Charles Milliard, il a l'air bien brillant puis il est bien le fun. Puis moi, je pense que j'aimerais ça le voir lui comme ça en neuf. Pablo Rodriguez, là, il y a un sondage qui est sorti la semaine passée, le journal Léger, qui dit « Si c'est lui à la tête du Parti libéral, le PLQ dépasserait le P... » Moi, j'ai manqué quoi pour que Pablo Rodriguez soit la huitième merveille du monde, puis qu'il soit donc ben incroyable, puis... C'est à part sortir du gouvernement Trudeau, qui me semble ça allait pas si bien que ça. Qu'est-ce que j'ai manqué?
Ben, t'as manqué la dernière élection fédérale. T'as pas vu tout l'engouement qu'il y avait autour de Mark Carney? C'est la même affaire. C'est le même monde. C'est le même monde qui va voter pour M. Rodriguez. Non, moi, je pense que c'est ça. C'est que les gens votent avec leur cœur, votent pour les apparences, votent avec des élans émotifs beaucoup plus qu'avec la raison. Puis j'ai l'impression que Pablo Rodriguez représente ou incarne un peu. Incarne un peu le Mark Carney sur la scène fédérale qui a gagné, qui a ravi un paquet d'électeurs. On pensait jamais que la circonscription de Trois-Rivières virait libérale. Mm. C'est une circonscription bloquiste. Au pire, au mieux. En tout cas, dans les meilleures probabilités, on pensait que la circonscription de Trois-Rivières, par exemple, serait soit encore à nouveau bloquiste ou soit conservatrice. Finalement, c'est les libéraux qui l'ont emporté très fort. Donc, je pense que c'est la même chose avec Pablo Rodriguez. Puis pour revenir sur le tranquille, moche, campagne plate. J'ai quand même beaucoup de respect, moi, pour ces courses-là où ça se fait tranquillement parce que c'est des futurs collègues quand même. Puis moi, j'ai ce respect-là d'une éthique de travail. Je trouve qu'il y a trop de partis politiques qui jouent bas, qui jouent les couteaux dans le dos, jouent sale, des gros égos. On le voit trop souvent. Alors moi, quand je vois qu'un parti politique est civilisé, se comporte avec éthique, oui, ça devient plate pour le public qui regarde ça puis qui se dit, voyons, il s'attaque pas tant, si fort que ça puis il n'y a pas de grand coup d'éclat. Puis si les médias couvrent pas tant que ça, puis pour, parce que tu sais pourquoi on dit que c'est plate, c'est qu'il y a pas de, il y a pas d'articles dans les journaux qui sortent puis des grosses histoires, mais en même temps c'est que probablement qu'ils font cette course là dans une éthique irréprochable, puis bon, ben moi dans ce sens là je respecte beaucoup ça.
T'as une très très bon, j'ai déjà critiqué, j'ai déjà dit à ce micro un moment pendant une course à la chefferie, calmez-vous là, les couteaux volent bas, vous êtes dans le même parti, vous allez travailler ensemble.
Exactement.
Je veux terminer, on va terminer la discussion avec un texto, puis je pose la question. Si on n'a pas la réponse, on va la trouver, mais on revient sur, l'histoire des médecins et surtout les inscriptions en médecine. On dit, t'sais, ouvrons les valves un petit peu plus. La personne nous écrit « Salut, j'ai une question. Est-ce que l'augmentation des inscriptions en médecine dans les universités est gérée par le gouvernement ou par les universités eux-mêmes ou peut-être par l'ordre des médecins? » Je ne sais pas s'il y a peut-être une troisième réponse. C'est qui gère ça, que c'est contingenté à ce point-là?
Je le sais pas. Okay. Je connais pas la réponse. J'ai l'impression que c'est les universités, mais sûrement que les universités, c'est en fonction aussi d'un budget. Mm-hmm. Donc, éventuellement, j'imagine que le gouvernement est pas très loin derrière cette décision-là.
Peut-être un travail d'équipe.
Oui, c'est ça. Mais s'il y avait une volonté, moi, je suis convaincue que s'il y avait une volonté gouvernementale de dire on double les admissions dans les facultés de médecine, par exemple, il y aurait possiblement une levée des boucliers du Collège des médecins aussi, hein, parce que quand on crée une rareté dans la profession, on s'assure de salaires très élevés. Ça, c'est... Donc, il y a des intérêts de toutes parts là-dedans.
De toutes parts.
Mais c'est important qu'on le nomme, justement, pour que la population se réveille puis se rende compte que y a intérêt pour certains groupes de maintenir ce taux de contingence-là très, très élevé, puis avoir des cotes R de débiles, puis avoir des étudiants en médecine qui ne peuvent qu'être complètement parfait, puis souvent sous médication pour réussir leurs études parce que les critères sont tellement élevés, parce qu'il y a tellement peu de place, mais au bout du compte, les citoyens sont, et les contribuables se retrouvent perdants là-dedans.
Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique, toujours un plaisir. Je te souhaite un beau mercredi ensoleillé.
Vous aussi.
À bientôt.
Bonne journée. Allez.